Dans cet épisode, nous allons vous parler
de nos chers parents.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Opération Firdaus. On se présente, moi c'est Khadija.
Et moi c'est Mariam.
Deux amis dont le début de parole est plus élevé que la norme et on a décidé de le mettre à profit et d'aider à notre échelle la communauté musulmane.
Notre objectif est simple, éveiller les consciences. On va traiter ensemble de différents sujets qui englobent notre quotidien afin de te et de nous pousser à la réflexion sur nos pratiques religieuses, nos manières de penser et d'atteindre le Firdaus, Inch'Allah.
Donc comme tu l'auras compris, le podcast s'adresse à toute personne qui aime Allah et son messager, toute personne à la recherche de l'excellence et qui souhaite être meilleure que la veille. Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Ce podcast sera à l'image de notre relation amicale, à savoir bienveillant, chaleureux, détente, compréhensif, authentique et en quête d'apprentissage. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau, alors sachez que le bien que l'on se souhaite, on vous le souhaite aussi. On te souhaite
une belle écoute, Inch'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, on espère que vous allez bien. Permettez-moi d'abord de demander à Khadija comment elle va.
Oui, ça va, merci, alhamdoulilah, et toi?
Ça va, alhamdoulilah, comme d'habitude. Quand
et
je te vois, tout va bien.
Ah, ça fait plaisir, ouais. ça fait plaisir. Ouais. Et la famille,
alhamdoulilah,
le travail,
tout va bien.
Ah bah super, et vous, on espère que bah, ça va, la rentrée, la reprise, tout s'est bien passé, et que le dernier épisode aussi vous a plu.
Mm-hmm. On attend en tout cas vos retours avec impatience.
On attend vos retours avec impatience, surtout que le format a un peu changé, on a fait une interview. C'est vrai que c'est pas facile de faire des interviews, c'était un nouvel exercice pour nous, mais bon, on espère que ça a été pour vous.
C'est ça, et vous nous direz aussi vos retours par rapport à ce nouveau format avec les interviews, etc. On vous avait déjà demandé sur Instagram justement si ce format pouvait vous plaire, et puis... Puis les sondages sont revenus positifs, donc on s'est dit
pourquoi
why not
pas essayer. Exactement.
Aujourd'hui, on aborde un sujet très important. On va parler de nos chers parents, comme vous l'a indiqué le titre. On vous cache pas que la préparation de cet épisode a été différente des autres. On a vraiment été très très émus. Il y a beaucoup d'émotions qui sont revenues à la surface parce qu'on s'est souvenu en fait de tout ce que nos parents avaient fait pour nous, tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous accorder une vie qui est meilleure. Et donc cet épisode aura pour objectif de nous rappeler ensemble de leur importance et de leur rang. En fait, lorsqu'on est enfant, on se rend pas compte forcément de la valeur de nos parents. D'ailleurs, ce qu'on caractérise souvent par crise d'adolescence, entre guillemets, renvoie à la période pendant laquelle les relations entre les enfants et les parents se dégradent et deviennent conflictuelles. Nos parents sont pour nous, en fait, des policiers qui nous interdisent un tas de choses, qui sont à la base cool pour nous. Et d'ailleurs, on rêvait tous d'avoir des parents cool, les parents stricts qui emprisonnaient leurs enfants. Vraiment, on était du genre « Ah bah vous, on vous a pris une arme, mais... On était vraiment dans une matrix incompréhensible. On rêvait tous, ou presque tous en tout cas, de parents qui nous laissent sortir, rentrer à pas d'heure, qui nous laissent dormir chez nos copines, qui nous laissent nous habiller comme on le souhaite, nous laissent faire des piercings, des tatouages, se maquiller, aller en soirée, aller à un concert. Enfin, bref, vraiment la vie rêvée des adolescents. Et pas que en réalité. Parce que cette vie est aussi rêvée par certaines de nos sœurs qui, même passé le lycée, continuent de fantasmer sur un tel mode de vie.
Ouais.
Et avec le recul, en fait, et la maturité, on prend conscience qu'en réalité, nos parents n'ont pas été stricts. Ils ont juste été de bons parents, tout simplement. Des parents qui veulent le bien pour leurs enfants, qui souhaitent les préserver des tentations de la vie d'ici-bas, etc.
C'est vrai, c'est ça. Et croyez-le ou non, hein, la plupart des parents nous le diront, ce n'est en réalité qu'une fois qu'on a des enfants que l'on se rend compte de la véritable valeur de nos parents, une valeur inestimable. Et dans cet épisode, Inch'Allah, on verra les versets, les hadiths qui mentionnent l'importance des parents. On parlera également du comportement exemplaire que l'on doit avoir envers nos parents, en passant par la patience, le respect, la communication, etc. Et pour finir, on parlera des personnes qui ont perdu leurs parents. Qu'Allah leur fasse miséricorde.
Amen.
On leur donnera quelques conseils à notre échelle, Inch'Allah.
Exactement. Bah, commençons par le commencement.
Exactement. Par les versets, les hadiths qui concernent les parents. Nos parents occupent un haut rang dans notre religion, un rang qu'aucune autre religion ne connaît. Et la bienfaisance envers les parents est en réalité une injonction divine qui vient immédiatement après la foi en Allah et l'adoration qu'on doit lui vouer. Donc concrètement, on adore Allah et au second plan, on retrouve notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puis nos parents. Et comme le disait à plusieurs reprises, l'ordre d'adorer Allah est souvent suivi de la bonté envers les parents comme s'ils étaient étroitement liés. Et on l'a dans la sourate 2 Al-Baqarah, verset 83. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères et mères. Et nous avons aussi des versets enfin un verset à la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, verset 36. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Et on a la sourate An-Na'm, sourate numéro 6, verset 151, dit: venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Et les versets les plus explicites à ce sujet restent ceux de la sourate Al-Isra, la sourate numéro 17, versets 23 et 24.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Que dire de ces six beaux versets,
franchement?
Et là, c'est un commentaire de Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, qui disait, du coup, la première chose, c'est que la bienfaisance envers les parents est immédiatement et encore une fois liée à l'adoration envers Allah. Mmh. La deuxième chose, quand on leur dit « ne leur dis point fi », signifie, selon l'imam Ibn Kathir, qu'il ne faut pas leur faire entendre de mauvaises paroles, ne serait-ce qu'un soupir, et pourtant considéré comme un degré moindre de mauvaises paroles.
Ouais.
Et la troisième chose, c'est ne les brusque pas. Quatrième chose, en parallèle des interdictions, on se trouve, entre guillemets, une recommandation. Adresse-leur des paroles respectueuses, c'est-à-dire des paroles douces, bonnes, gracieuses, avec politesse, respect et considération.
Exactement, et d'ailleurs, c'est tellement fort que on n'a pas d'indication précise à savoir si ceux-là sont des recommandations ou des obligations.
C'est ça.
Excusez-moi, c'était juste la note au lecteur.
Nota bene. C'est comme ça qu'on dit, ouais.
Oui.
Et je disais, du coup, cinquième chose, c'est « et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, ce qui sous-entend soit humble envers eux par tes actes. » Et enfin, pour terminer, la sixième chose, quand on dit « ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit », signifie qu'on doit, durant leur vieillesse et au moment de leur mort, invoquer pour eux. Et en fait, c'est pas normal qu'une personne n'invoque pas pour ses parents. Normalement, après genre chaque prière, on se doit d'invoquer en faveur de leur pardon et en faveur de leur entrée au paradis.
Exactement. D'ailleurs, si on s'y penche sérieusement, les hadiths à ce sujet sont également nombreux.
Ouais.
On en citera quelques-uns. Le Coran et les hadiths en parlent, alors soyons vraiment unanimes sur le sujet. Les parents sont importants et la bienfaisance envers eux est une obligation. Voilà, c'est ce que je voulais dire avant
c'est
de commencer.
C'est clair.
Voilà. D'abord, dans un hadith, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les grands péchés sont associer d'autres divinités à Allah, la désobéissance aux parents, le meurtre et le faux serment. C'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, que peut-on d'ores et déjà retenir de ce hadith? Parmi les plus grands péchés se trouve la désobéissance aux parents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné juste après l'association, le shirk donc. Et donc qu'est-ce que la désobéissance aux parents concrètement? La désobéissance aux parents désigne l'opposition aux parents lorsqu'ils ordonnent une chose permise ou d'avoir des propos ou des actes déplacés envers eux. Et la désobéissance fait partie des grands péchés en opposition aux petits péchés. Mmh. Et souvenez-vous, on vous avait déjà évoqué justement cette distinction dans notre précédent épisode qui est péché et passion. Et la particularité en fait des grands péchés, c'est qu'en plus de leur gravité envers Allah, c'est-à-dire les péchés liés à un châtiment, ils sont différents des autres dans leur repentir. Mmh. En fait, je ne sais pas si vraiment on se rend compte de la gravité. C'est pas juste, je fais des invocations, oh Allah, qu'Allah me pardonne. Non,
ouais,
non. C'est pas
on
comme
est,
ça.
On n'est pas là.
On n'est vraiment pas dans ça. Pour se repentir d'un grand péché, accepter du coup selon le bon vouloir d'Allah, il faut évidemment arrêter immédiatement le péché, regretter profondément, être déterminé à ne plus le refaire et réparer cela s'il y a eu un préjudice qui a été causé, du mieux que l'on peut, en accompagnant d'ailleurs ce cela de bonnes actions afin de s'assurer de l'acceptation du repentir. On voit bien en fait à travers cela que c'est pas une mince affaire en fait. Et que si Allah nous ordonne tout cela, c'est que le poids de son importance est colossal.
Ouais.
Il suffit de voir que ce péché est assis à la même table que l'association, le shirk, sans pour autant évidemment qu'il le surpasse niveau gravité péché. Donc très honnêtement, même si nous faisons tous les actes d'adoration possibles, mais qu'en parallèle nous ne respectons pas nos parents et que nous leur désobéissons, eh bien sachons que ça ne sert absolument à rien et qu'on est perdant dans l'histoire. Et évidemment que ça prend dans le bon sens. On ne va pas arrêter toutes nos bonnes actions parce que ça ne sert à rien, mais plutôt prendre dans le sens inverse, nous corriger sur notre comportement envers nos parents.
Exactement. Mais d'ailleurs, une personne pourrait poser la question suivante. Qu'ont-ils fait pour mériter cette place et pour mériter la bienfaisance? Et du coup, là, je vais vous dire, mesdames et mesdemoiselles, sortez vos mouchoirs. Sortons tous nos mouchoirs. La mère, la première femme de notre vie, la première que nous avons vue lorsque nous sommes nés, la première à nous avoir aimés sans nous connaître. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, un homme demanda « Ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ?» Il dit « Ta mère ». Il dit « Et qui encore ?» Il dit « Ta mère ». Il dit « Et qui encore ?» Il dit « Ta mère ». Il dit « Et qui encore ?» Il dit « Ton père ». Première réponse du prophète, alayhissalatu wassalam, c'est « Ta mère ». Et en plus, il le dit 3 fois d'affilée avant de répondre « ton père ». En fait, voilà pourquoi on commence par évoquer l'importance de la mère. Et dans la sourate Luqman, verset 14, Allah nous dit
« وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ »
Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. On s'arrête quelques secondes sur cette partie du verset. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. La grossesse et l'accouchement. Et par Allah, j'ai vraiment entendu des femmes dire ce n'est qu'une fois que je suis tombée enceinte et que j'ai accouché, que j'ai réellement compris la valeur de ma mère. Ta mère est apportée péniblement pendant 9 mois en endurant peine sur peine, nausées, vomissements, fatigue, maux de tête, maux de ventre, douleurs au dos, etc. Franchement, et j'en passe. Et pendant 9 mois, la mère porte difficilement son enfant et fait attention à lui, alors même qu'il n'est même pas encore né. Elle apporte une affection pour un être qu'elle ne connaît pas encore. Et une fois le terme arrivé, vient le douloureux épisode de l'accouchement. Vraiment inutile de s'attarder là-dessus. Tout le monde connaît l'accouchement, classé par certains scientifiques, même comme l'une des pires souffrances physiques qu'un humain peut supporter. On le sait tous, l'accouchement est difficile et le travail peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines, t'as vu. Et nous, on n'est pas encore maman, vraiment, on a peur. Non, je rigole.
Non, mais parce que là, on vous fait les pires.
Non, mais vraiment.
Désolée, elle m'a perturbée. Mais vraiment, après tout ce que tu as dit, parce que c'est vraiment hyper pertinent. Ouais. Mais après cela, est-ce que c'est terminé? Même pas. Ouais. Après cela, notre mère, malgré l'épuisement et les douleurs physiques, elle continue de s'occuper de nous. Elle dormait peu la nuit, somnolait parfois debout. Mais tout ce qui comptait pour elle, c'était qu'on soit en bonne santé. Elle dormait peu pour nourrir, pour veiller sur nous. Pareil, lorsqu'on était enfant, combien de nuits a-t-elle passé à notre chevet lorsqu'on était malade?
Ouais.
Combien de fois son sommeil était perturbé par nous? Pendant combien d'années s'est-elle levée le matin pour nous emmener à l'école, pour nous récupérer, pour nous donner à manger, pour s'occuper de nous? Combien de sacrifices a-t-elle fait pour nous? Combien de fois s'est-elle privée pour nous? Combien de fois s'est-elle fatiguée pour nous donner le meilleur? En fait, comment ne pas être reconnaissant envers elle? Celle qui t'a élevée, éduquée, nourrie, appris, qui a patienté pendant des années jusqu'à ce qu'on acquiert de l'autonomie. La seule qui souhaite notre bonheur plus que le sien, qui s'est sacrifié physiquement pour nous et pour nous mettre au monde et nous faire grandir. En fait, comment on peut pas être reconnaissant et bon envers notre mère? Notre dette envers notre mère, elle est immense et elle n'est d'ailleurs pas susceptible d'un remboursement. Jamais on ne pourrait lui rendre la santé physique qu'elle avait avant notre naissance. Jamais on ne pourrait lui rendre le temps qu'elle a donné et tout ce qu'elle a investi pour nous, en fait.
Mais c'est ça. On pourra jamais.
Never.
Maintenant, place à celui qui, lui aussi, s'est sacrifié physiquement pour nous, celui qui a durement travaillé toute sa vie pour nous offrir le confort que lui n'a jamais eu. Pour la plupart d'entre eux, ils se réveillent tôt, dormaient peu la nuit et même ils rentraient tard le soir, et ce pour subvenir aux besoins de leur famille, pour nous offrir un avenir et une vie qu'il n'a pas pu avoir en fait. Et dans un hadith d'après Abu Darda radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit: le père est la porte du milieu des portes du paradis, ainsi si tu veux, laisse cette porte ou prends-en soin. C'est rapporté par Tirmidhi. Et notre père est le chef de famille qui porte la lourde responsabilité de tous les membres du foyer, devoir s'occuper de nous, de nous protéger, de subvenir à l'ensemble de nos besoins et sans jamais se plaindre. Mmh. Avec l'âge, il se fatigue et des fois il perd patience. Mais souvenons-nous de sa jeunesse lorsqu'il s'occupait de nous étant petit. Et pour ceux qui n'ont pas le souvenir d'une proximité ou d'une quelconque complicité avec leur père, et ben qu'ils sachent que celui-ci œuvrait de manière indirecte. C'est grâce à lui que ben on est en sécurité chez nous, un toit au-dessus de notre tête, mmh. des repas, un confort inestimable. Ouais. Et un jour, Abu Huraira radiallahu anhu, il a vu deux hommes, l'un plus vieux que l'autre, marchant ensemble. Il demanda au plus jeune, qui est cet homme pour toi ? Et il lui répondit, mon père. Il lui répond, ne l'appelle pas par son nom, ne marche pas devant lui, ne t'assieds pas avant lui. C'est ça que lui a conseillé Abu Huraira. Mmh. Et ses conseils ou ses attitudes conseillées par Abu Huraira sont ceux réservés aux monarques. Et effectivement, dans les protocoles royaux, il est interdit de dépasser le roi et de marcher devant lui. Il est également interdit aussi de s'asseoir avant lui. Et subhanallah, ses conseils sont donnés à un homme pour son père. Genre, le père mérite encore plus de respect qu'un roi. Et nous, en fait, on en est où par rapport à ses conseils ?
Non, mais c'est une très très bonne question. Ouais, on en est où par rapport à ses conseils ? Et on a même un autre hadith d'après Abdullah ibn Amr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'agrément du Seigneur est dans l'agrément du Père et la colère du Seigneur est dans la colère du Père. C'est rapporté par Tirmidhi. Et à travers le peu que l'on vous a montré, cela nous prouve l'importance de leur obéissance et le haut statut qu'ils occupent en islam. Mmh. En fait, il n'y a pas de secret. Quoi de plus beau pour avoir une vie pleine de bénédictions ? D'avoir ceux de ses parents. Il faut respecter. Le respect, souvenons-nous, c'est le mot d'ordre.
Vraiment, c'est clairement le mot d'ordre. Et du coup, avoir un comportement exemplaire avec nos parents. Et la femme musulmane est tenue à l'obéissance et à la bienfaisance envers ses parents. Et ce que la femme musulmane, bah, elle soit mariée ou non, parce que ses obligations incombent à tout musulman. Et d'ailleurs, il est triste de voir que certaines personnes ne se rendent compte de la valeur de leurs parents qu'une fois qu'ils les perdent. Alors que la religion nous impose la bienfaisance envers eux. Sans attendre. Et également, il est étonnant de voir certaines personnes de notre génération, une fois mariées, et rompre tout lien de parenté, y compris avec leurs parents. Mmh. Certains se réjouissent même que l'un des époux ne parle plus avec sa mère ou son père. On entend certains dire comme ça, au moins, je n'ai pas de belle-mère et mon mari ne sera qu'à moi, etc. Subhanallah, genre,
incroyable.
C'est... Ouais, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Il en est de même pour les personnes dont les parents sont musulmans mais pratiquent peu ou de manière incorrecte la religion. Ou encore pour les convertis dont les parents sont mécréants. Et ces cas de figure ne sont en aucun cas une raison pour rompre les liens avec ses parents. Au contraire, beaucoup pensent que parce que leurs parents sont ignorants ou mécréants, ils n'ont plus besoin d'honorer leurs devoirs envers eux. Alors qu'Allah a dit dans la sourate 31, verset 15... وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Donc, entre guillemets, reste avec eux ici de façon convenable. Ibn Kathir, il a interprété ce verset en expliquant que même s'ils essayent ardemment de nous convertir à leur religion, n'acceptons pas leurs efforts, mais ne renonçons pas non plus à nous comporter convenablement avec eux dans ce bas monde.
Exactement. Alors vraiment, si vous êtes dans le cas de figure où vos parents ne sont pas sur le chemin de la droiture, soyons vraiment bienfaisants envers eux. Montrons-leur le bon chemin, montrons-leur le bon comportement, ce à quoi nous exhorte notre belle religion. Soyons attentionnés envers eux, toujours à leur service, toujours bons envers eux, en leur offrant des cadeaux, en faisant preuve de patience surtout et en invoquant pour eux pour avoir la guidée. Et pour se poser la question par rapport à nos comportements qu'on peut avoir envers eux, est-ce que le meilleur homme sur terre, le plus parfait, à savoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a rompu les liens avec son oncle? Même pas son père, hein. Là on parle de son oncle qui l'a élevé, qui l'a fait grandir alors qu'il était mécréant, et cela jusqu'à son dernier souffle. Non, il s'est tenu à ses côtés jusqu'au bout. Et en plus d'être à ses côtés, il l'appelait toujours à l'unicité jusqu'au bout, encore une fois. En fait, tellement il l'aimait et qu'il voulait son bien, il était tout de même mécréant, vraiment soulevant bien le poids de sa situation. Il était polythéiste, qui ne croit pas. On ne parle même pas de quelqu'un qui ne pratique pas. Vraiment, c'était un mécréant. Et le mot d'ordre, encore une fois, c'est le respect. On doit respecter nos parents, ceux qui nous ont élevés, nourris, logés jusqu'à atteindre l'âge adulte. Vraiment, on généralise, hein. Mais dans les cas les plus généraux, on ne doit pas être ingrat. Comme on l'a vu précédemment, ils occupent un haut rang dans l'islam. On peut observer que dans les pratiques occidentales, hausser le taux sur ses parents, c'est rien. C'est absolument rien.
Ouais, grave.
Alors que pour nous, c'est cataclysme. En plus, c'est la porte d'entrée à des actes plus graves, jusqu'à voir des concepts de Pascal le grand frère ou Super Nanny à la rescousse pour sauver tout cela.
Putain, non, Super Nanny, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Mais vraiment, en fait, c'est que les bases, elles n'ont pas été instaurées dès le début. Et c'est là qu'on se dit vraiment, mais rien n'est prescrit dans le vent, dans notre
religion. Rien.
Faisons en sorte de ne jamais élever nos voix au-dessus de la leur. Des fois, avec nos parents, on peut rencontrer des gros soucis au niveau de la communication. Nous sommes beaucoup à avoir des parents qui sont nés et qui ont grandi dans nos pays d'origine. Et ils sont venus en France pour nous accorder une vie meilleure, vraiment qu'Allah les préserve et les récompense. Mais il est clair que de l'autre côté de la Méditerranée, les mentalités, les habitudes de vie se sont différentes, surtout à leur époque. Et nous sommes des enfants avec une double culture pour la majorité. Et c'est pour ça que des fois, en fait, on a du mal à communiquer ou nous faire comprendre par nos parents sur certains points. Et dans énormément de cas, ce sont les premières générations installés en France, qui ont sacrifié leur famille, leurs habitudes, qui ont traversé énormément de choses qu'on peut même pas s'imaginer en fait. Certains ont vécu la mort de leurs proches en étant très éloignés d'eux.
Ouais.
Vraiment, ils ont vécu des choses qui sont absolument pas faciles. Entre barrière de la langue, mode de vie occidental, racisme, hostilité envers l'islam, leur vie n'est pas comparable à la nôtre. Franchement, posons-nous avec nos parents et discutons avec eux. Demandons-leur leur parcours, leur histoire. Des fois, on va voir qu'ils ont vécu un bon nombre d'épreuves sans qu'on le sache. Malgré cela, ils n'ont rien lâché. Et ils nous ont accordé la meilleure des éducations. Et en connaissant leur histoire, leur parcours, en fait, on va encore plus avoir de l'admiration et du respect à leur égard. Mais surtout, les comprendre davantage et visualiser leur manière de réfléchir. C'est là, exactement là, que le bon comportement de la musulmane fait surface. C'est-à-dire apprendre à être patiente envers eux, ceux qui t'ont mis au monde. Surtout pour les sujets assez compliqués et conflictuels comme le mariage, les études supérieures aussi, la tenue vestimentaire, les concepts de vie et même la conversion à l'islam pour certaines personnes. Bon, là, c'est un autre sujet, mais c'est important de l'évoquer quand même. Dans tous les cas, c'est très dur et il faut beaucoup, beaucoup discuter, patienter, essayer de les comprendre, comprendre leurs craintes, leurs appréhensions et surtout, surtout faire beaucoup d'invocations. Mais aller à l'affront, se mettre ses parents à dos, être rude avec eux, employer la manière forte, etc. Non, non, ce n'est pas la solution.
Ce n'est clairement...
It's not the solution.
Non, ça on coupe au montage. Non,
je te jure que je coupe au montage.
Je vais pas faire ça. En plus, c'est elle qui fait les montages. Non, je sais que tu vas couper. C'est
mais
pas possible.
Mais je te jure que je vais pas couper.
Si je vois ça vendredi. Oh, mon Dieu.
Je te jure que je coupe pas ça au montage.
D'accord, ok. Je poursuis du coup. Hein. Je poursuis. Je sais plus ce que je voulais dire. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam qui avait un père polythéiste. Il n'a pas haussé le ton sur son père, mais il l'a toujours conseillé avec bienveillance et pédagogie, bien qu'il adorait des statues. Hein. On peut le voir dans la sourate Maryam, la sourate 19, verset 42.
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Genre, est-ce que vous avez vu la pédagogie et l'effort d'amener son père à la réflexion?
Ouais.
Ibrahim est un prophète et regardons comment il parle à son père polythéiste. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? La sœur ou le frère, genre, a appris deux versets ou deux hadiths, etc. Et ben, elle se permet de sermonner ses parents sur leurs pratiques religieuses, etc. Genre, des parents, en plus, qui sont musulmans.
Ouais.
Au lieu d'essayer de leur expliquer leurs manquements, ce qu'ils ne savent peut-être pas, avec douceur et pédagogie, on retrouve des enfants qui haussent le ton sur leurs parents avec des phrases à base de « Mais vas-y, toi, tu connais rien. Et toi, tu comprends rien. Tu connais rien à la religion. Mais ça, c'était à l'époque. Ça, c'est plus... Toi, t'es dans le faux.
Ouais.
Non, on ne parle pas comme ça, ses parents. Non,
sérieusement,
j'ai vu ça. J'ai vu ça vraiment plusieurs fois.
Ouais.
Et certains même arrivent à traiter leurs parents de mécréants. Non, mais c'est grave. Alors que ces derniers sont musulmans Tout cela sous prétexte qu'ils ne suivent pas la bonne voie, entre guillemets. Vraiment, qu'Allah les guide, Amen. Qu'Allah nous guide tous. Amen. Et encore une fois, les récits des prophètes ne sont pas là pour faire joli ou pour faire la liste de nos prophètes préférés, mais vraiment pour qu'on en tire des leçons et qu'on les applique. Ouais. Dans notre société actuelle, on va dire qu'à partir de 18 ans, l'enfant devient un adulte et se sépare donc de ses parents, comme si à 18 ans, notre indépendance légale, du point de vue de la loi, ben, te permettait... Tout. Ouais. Nos parents deviennent limite des étrangers et on fait ce qu'on veut, quand on veut. On prend notre appartement et nos décisions et nos dépenses ne les concernent en rien. Ouais, mais vraiment en rien. Ouais. Et on leur manque de respect, etc. Sous prétexte que c'est notre vie et qu'on est majeur et vacciné, etc. Ouais. Et pour l'anecdote, comme d'habitude, on m'appelle Madame Anecdote.
Non, on t'appelle Père Castor Labinoclard.
Ah oui. D'accord, oui.
Je suis trop content de ma blague.
Pas, t'es pas sympa.
Désolée.
Voilà, du coup, en fait, à un moment, j'étais en stage en EHPAD lors de ma formation infirmière. Et à un moment, il y a une dame, elle arrive et tout, en bombe, en furie et tout, et elle commence à agresser une aide-soignante. Et, agresser verbalement, quoi, voilà. Et du coup, je m'approche un peu pour savoir de quoi il s'agit. Et là, en fait, je comprends que c'est la fille d'une résidente de l'EHPAD. Elle n'était pas contente parce que la jupe de sa maman était tachée. Et elle a dit que c'était de la maltraitance, qu'elle va remonter ça à la direction, etc. Non, mais genre, j'étais tellement énervée contre la dame. En plus, je suis quelqu'un, genre, je suis grave calme et tout. Mais j'étais tellement énervée contre la dame parce que je me suis dit, mais en fait, mais prends ta mère et ramène-la chez toi, occupe-toi d'elle alors.
Non, mais vraiment.
Non, mais parce qu'en fait, cette résidente, en plus, elle avait pas de problème de santé, etc. Ça veut dire qu'elle pouvait la garder avec elle. Et franchement, ça m'a irritée, ça m'a gratté. Ouais. Je voulais grave aller lui parler, mais bon, enfin bref, voilà. Oh, je suis restée à ma place.
Ta place de stagiaire.
Exactement. De stagiaire. C'est trop ça. Mais vraiment. Et du coup, même après l'obligation du respect que l'on doit envers nos parents, il s'agirait d'être juste patient à leur égard. Et cela dans n'importe quelle situation. Et genre, certains parents sont musulmans, des personnes attachées à leur salat, mais par souci de culture imprégnée et de mélange entre celle-ci, genre entre culture et religion, ils en viennent à s'égarer dans des actes ou des aspects de leur foi. Mais par exemple, par le biais de superstitions, de recours à des charlatans traditionnels, enfin, vous avez compris, etc. Et cela est totalement normal et habituel chez eux. En fait, c'est normal pour eux, ça fait partie de leur quotidien, alors que non. Et de par leur éducation, leur mentalité et le statut social, beaucoup de fois, ils sont amenés à mélanger culture et religion. Est-ce une bonne raison, vraiment, pour se sentir supérieur ou carrément s'éloigner et s'écarter d'eux?
Très bonne question.
Merci beaucoup.
très bonne question. Bon, mais comme tu as dit, en fait, nous, il suffit juste de s'investir juste un peu dans l'islam, à lire quelques hadiths par-ci par-là, à apprendre Ayat al-Kursi, regarder des vidéos sur YouTube par-ci par-là, mais pour nous écarter de nos parents, mécréants, soi-disant, associateurs et pécheurs.
Ouais.
Alors, on est d'accord, il n'y a pas d'obéissance dans l'interdit, le mal et autres. Est-ce que c'est pour autant que l'on doit venir les rabaisser, être condescendant envers eux? Non, mais c'est une dinguerie quand même.
Ouais,
vraiment. Il ne faut pas oublier que Allah n'est point inattentif et que la guidée ne vient que de lui. Nous, on fait les causes, mais la décision revient que à Allah subhanahu wa ta'ala, sans nous rendre des comptes. Allah n'a pas à rendre des comptes sur la guidée d'un tel ou un tel. Non. Et de là à se permettre de dire j'en veux à mes parents, je regrette l'éducation que j'ai eue, etc. Non. Est-ce qu'on se permettrait de dire « j'en veux à Allah de ceci ou cela »
Non.
Et pourtant, c'est lui qui est le détenteur de toutes choses et qui décrète tout ce qui s'est passé, se passe et va se passer.
C'est ça. Et même, reprenons l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam avec son père qui idolâtre les statues. Il est un très bon exemple pour les personnes qui ont des parents non musulmans ou associateurs.
Exactement.
On vous invite à connaître son histoire, mais pour ceux qui ne le savent pas, le père de Ibrahim alayhi salam était un idolâtre qui fabriquait même les idoles à l'époque. Il a été contre son fils Ibrahim alayhi salam, lui qui a pourtant invoqué en sa faveur. Hein. Et on le voit dans la sourate Ibrahim, sourate 14, verset 41.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
Notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour de la rétribution. Et à aucun moment, il est devenu hostile envers ses parents tout en continuant de se désavouer de ses croyances. Il arrive que le père et la mère ou l'un d'eux s'écartent du droit chemin pour une raison quelconque. Et dans ce cas, le devoir d'une musulmane bienveillante envers eux est de s'armer de patience pour leur rappeler la bonne voie d'une manière courtoise, convenable et tendre. Leur conduite ne doit aucunement la pousser à se montrer sévère à leur rencontre, à leur manquer de respect ou ne pas les traiter très convenablement. Elle doit plutôt essayer de les convaincre de façon raisonnable et sage en ayant recours à tous les moyens susceptibles de faire parvenir son message à leur cœur, ne serait-ce que par un sourire affectueux ou je sais pas moi, par des mots gentils ou tout acte en accord avec leur caractère. Ouais. On ne doit surtout pas se laisser influencer par les mœurs de notre société en laissant nos parents seuls finir dans des EHPAD, etc. Et évidemment, dans certains cas, bah, ils ont besoin de soins, etc. C'est autre chose. On ne dit pas que c'est à bannir, etc. Mais regardons les faits. Il y a des choses en place en Occident qui n'existent même pas dans nos pays d'origine. Ouais. Parce que abandonner, entre grosses guillemets, ses parents, ça ne nous traverse même pas l'esprit dans ces populations-là. Et comme on l'a dit, on vise l'excellence malgré nos imperfections. Donc, on gratte les bonnes actions partout.
Partout.
Ouais, vraiment partout. Et pour Allah en premier lieu, mais aussi pour nos parents. Et on se rend disponible pour eux. Ne serait-ce qu'en faisant les courses, en les aidant pour les papiers administratifs, financièrement, en leur apportant une attention ou des cadeaux, etc. Et ayons aussi en tête le hadith qui, d'après Salman ibn Amir, radiallahu anhu, le prophète alayhi wassalam, a dit: certes, l'aumône en faveur d'un pauvre est une aumône, et elle est pour un proche deux choses: l'aumône et resserrement des liens de parenté. Et c'est rapporté par Nasa'i.
Sortez. Aussi, sortons avec nos parents. Pourquoi en fait on réserve seulement nos sorties uniquement avec nos amis ou nos maris, etc. Vraiment, nos parents dans tout ça, on peut se permettre quand même de les, on va dire, adapter dans notre monde à nous.
Ouais,
évidemment.
Ouais.
Pour la plupart d'entre eux, en plus, ils se sont privés pendant des années pour nous élever et n'ont pas pu nous offrir ce genre de sorties ou même de voyages. Alors franchement, une fois que nous atteignons le niveau pour pouvoir leur offrir ce genre d'attention, faisons-le, ça ne nous coûte absolument rien. Faisons des restaurants, même des pique-niques en bas de la maison, c'est rien. Des voyages, des balades ou autres sorties qui pourraient leur plaire. Tant que l'on dépense du temps de qualité avec eux pour resserrer les liens de parenté et accroître notre amour et notre reconnaissance envers eux, pas de ralentir, on donne tout. Vraiment, certaines personnes sont d'ailleurs très proches de leurs parents, alhamdoulilah, et très intentionnées. Ils entretiennent des relations fusionnelles avec leurs pères et mères. D'autres, par manque de communication, amour non démonstratif, différence d'âge qui peuvent être très poussées, ou autres causes, ne sont pas forcément très proches de leurs parents. Mais vraiment, le principal, c'est de faire des causes, aussi minimes qu'elles soient, c'est déjà bien, franchement. Et au fur et à mesure, on augmente la cadence, etc. Tâchons de préserver nos liens de parenté à travers tout acte. Des appels, les messages, les visites, même s'ils sont à tout l'autre bout de la terre, préserver leur réputation, leur honneur, leur argent, leur dignité, leur donner ce qu'ils nous demandent, les consulter pour prendre un avis, ne pas leur faire de reproches. Vraiment, on fait notre maximum.
Vraiment le maximum. Et même d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: il y a trois invocations qui ne sont pas repoussées. 1. L'invocation du père, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Et c'est-à-dire que l'invocation des parents en faveur de leur enfant est exaucée. Je sais pas si vous en rendez compte. Moi, quand j'ai su ça, je me suis dit: ah ouais, d'accord, les parents, c'est vraiment important. Ouais. Et d'ailleurs, si j'ai envie que mes parents me fassent des belles invocations et que j'ai la baraka dans tout ce que j'entreprends, bah, je dois les respecter, les chérir et bien me comporter avec eux.
Ça va de soi.
Ouais, ça va de soi. Quand nos parents sont satisfaits de nous, wallahi, que l'on le sent dans notre vie, leurs invocations ne sont pas à négliger. Donc si vos parents sont encore là, profitez-en pour leur demander qu'ils invoquent pour vous. Et respectons nos parents et le verset de la sourate 17, verset 24. Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Si dans la relation entre vos parents et vous, il n'y a plus de rahma, c'est qu'il faudra tout revoir.
Tout revoir.
Et je vais vous raconter un truc là qui vient de me venir à l'esprit et qui prouve une fois de plus l'importance de nos parents et l'amour qu'ils nous portent, et plus particulièrement nos mamans. Pendant l'hiver dernier, j'ai chopé une grippe sévère. Je ne sais pas si c'était le Covid ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était chaud. Et d'ailleurs, Mariam aussi, elle était malade.
Oui, j'étais
malade. À ce moment-là, c'est toi qui m'as contaminé.
Non, ouais.
C'est toi. Voilà, tranquille. C'est toi, tu peux l'accepter.
Sans commentaire.
Et il faut savoir que dès que j'ai senti que je commençais à tomber malade, genre fièvre, virus, courbature, etc., j'ai directement pensé à ma mère. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Mais en fait, quand je suis malade, ma mère, elle est toujours auprès de moi. La nuit, elle se réveille pour savoir comment je vais. Elle me prépare des soupes, elle me masse. Enfin, genre, elle est vraiment au petit soin. Elle s'inquiète pour moi jusqu'à ce que je me rétablisse. Et là, je suis mariée, en fait. Et là, je me suis retrouvée dans mon lit chez moi et tout. Là, j'étais à deux doigts de pleurer et crier: maman!
Non, mais commence à siffler dans leur oreille.
J'étais en mode non et tout. Mais après, alhamdoulilah, j'ai un mari qui gère très bien aussi. Allah mabarik. Je te passe le salam. D'ailleurs, si tu passes par là, je ne crois pas qu'il chope mon col. Non, mais vous m'avez compris, on peut pas comparer une mère. Une mère, en fait, c'est la mère. Après, je me suis dit, genre, même si toute la famille est malade, genre, l'époux, les enfants, tout le monde, genre, la mère, elle doit toujours gérer. Mmh. Elle prend soin de tout le monde. Et même si elle est extrêmement fatiguée, on comprend mieux le hadith où le prophète, alayhi wassalam, disait trois fois la mère, puis le père. Et vraiment, qu'Allah nous accorde un jour la chance d'avoir ce rôle. Et vraiment, quand je me suis rétablie, j'ai grave invoqué pour elle et j'ai prié pour elle. Qu'Allah la garde longtemps auprès de moi, quoi.
Amin. Comme tu l'as dit, j'étais aussi malade pendant cette période-là.
Ouais.
Mais c'était pareil pour moi. D'ailleurs, moi, j'étais tombée malade avant Khadija et on devait même se faire une après-midi bien-être et tout. Ouais. Annulé pour moi, bim dans mes dents, vraiment. Mais j'étais abattue physiquement, j'étais malade à fond. Et moi qui vis encore avec mes parents, bah, j'avais ma mère auprès de moi qui me soignait, me donnait à manger. Elle dormait pas, elle reproduisait même mes petites habitudes parce que. Par exemple, moi, j'aime manger le riz, la semoule, etc. Bref, tout avec la fourchette. Tout comme les Occidentaux, d'ailleurs. Et tous les plats que moi, on mange chez moi habituellement avec la cuillère, ben moi, je les mange avec la fourchette. Et justement, ils aiment bien me taquiner chez moi en disant que je m'affiche et tout. Mmh. Mais elle prenait le temps, justement, de reproduire cela, de mettre du sucre de canne, de saler un peu plus mes plats et plein d'autres habitudes, en fait, que j'ai. Mais je vous assure que cette période-là, je ne voulais absolument pas me marier et rester avec ma mère. Je me disais, mais sérieux, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un époux? Genre, vraiment, je me suis rendu compte.
Non, ça va, toi.
Ça va, je rigole. Mais vraiment, je me suis rendu compte encore plus de la chance qu'on avait. Mm. Ceux qui ont connu leur mère aussi. À mon grand âge, elle s'occupait de moi comme si j'étais un nouveau-né. Mm. Et même avec tout l'or du monde, je ne pourrais pas rendre la moitié de ce qu'elle m'a donné et sacrifié pour moi dans sa vie. Mm. Et pareillement, pour beaucoup, je pense. Vraiment qu'Allah préserve nos mamans. Gardons toujours en tête que tous les sacrifices qu'ils ont faits pour nous, ne serait-ce que juste leur santé, hein, leur argent, leur temps, leurs projets, leurs rêves, nous accorder une vie convenable. Tout ce qu'ils ont sacrifié, on ne pourra jamais leur rembourser.
Jamais leur rembourser. Et du coup, là, on va vous donner quelques exemples de comportements des pieux envers leurs parents. Et on va vous donner quelques petites histoires. D'après Anas ibn Nadr, radiallahu anhu, il a dit « Une nuit, la mère de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, lui a demandé de l'eau. Et à son retour, il lui apporta de l'eau, mais il la trouva en plein sommeil. » Il resta immobile auprès d'elle jusqu'au petit matin. Il ne l'a même pas réveillée. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte.
C'est trop mignon.
Non, vraiment mignon. Oui, mais non. Franchement. Non, mais on est loin de ça.
On est loin.
Non, mais nous, on aurait versé l'eau au robinet. On aurait dit, bon, bah, tu dormais. On a une deuxième histoire. Et c'est Mohamed ibn al-Muqadir, radiallahu anhu, il a dit, j'ai passé ma nuit à masser les pieds de ma mère alors que mon frère Omar a passé la sienne en prière. Sa nuit ne comblait pas autant que la mienne.
C'est vraiment beau parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est deux poids, deux mesures alors que les récompenses qui sont derrière ces deux nuits passées justement sont égalables. On a même une petite histoire d'après Ibn Hassan At-Tamimi radiallahu anhu qui a voulu en fait tuer un scorpion, mais ce dernier pénétra dans un trou. Il y introduisit du coup ses doigts à sa poursuite et le scorpion le piqua. On lui demanda le pourquoi de son geste et il répondit « J'ai craint qu'il ressorte et qu'il pique ma mère ». Voilà, une autre petite histoire toute mignonne. Voilà. Et de même que Zine al-Abidine, radiallahu anhu, qui était très bienfaisant envers sa mère. Cependant, il ne mangeait jamais dans le même plat qu'elle. Et on lui demanda, tu es la personne la plus bienfaisante envers ta mère. Pourquoi on ne te voit pas manger avec elle dans un même plat? Et il rétorqua, j'ai peur que ma main s'empresse de prendre un aliment sur lequel elle a des vues. Et par ce geste, je lui aurais désobéi. Sachez qu'il y a encore très peu de temps, il y avait une communauté chez laquelle on ne trouvait pas des personnes qui habitent à l'étage au-dessus, alors que leur mère habitait en dessous.
Waouh.
On voit que les piétés ne sont pas pareilles que nos générations.
Franchement, on est très loin.
Ouais.
Et je sais pas, vous connaissez peut-être l'histoire des trois hommes bloqués dans une grotte. Un rocher, en fait, bloquait l'entrée. Les trois invoquèrent Allah en invoquant leurs bonnes actions passées. Et voyons aujourd'hui celle qui intéresse notre sujet, à savoir la première histoire. Et c'est Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qui a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu'à la tombée du soir, qui les fit entrer dans une grotte où ils se réfugièrent. Un rocher dégringola de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils dirent alors, rien ne pourra nous sauver de ce rocher si ce n'est le fait d'invoquer Allah, exalté soit-il, en évoquant nos bonnes actions passées. L'un d'eux dit, Ô oh Allah, j'avais deux parents âgés, je ne donnais jamais à boire à personne avant eux, que ce soit une personne de ma famille ou autre. Un jour, j'ai ramené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait, mais je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner à boire du lait à personne d'autre de ma famille avant eux. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main ainsi qu'à leur réveil jusqu'à la pointe du jour, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. Ô oh Allah, si tu juges que j'ai fait cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir.
Subhanallah. En fait, l'histoire, elle est merveilleuse.
Elle rappelle un peu l'histoire du début.
Cet homme, il a préféré attendre le réveil de ses parents, a refusé de donner à boire à sa famille. Aurions-nous, nous, la même attitude?
Non.
En fait, toutes ces histoires, elles sont vraiment à méditer. Faisons un exercice très simple. Hein. Oui, on s'improvise des petits exercices entre-temps. Mais vraiment, posons-nous la question suivante. Et moi, qu'ai-je fait pour mes parents? Quelles sont les bonnes actions que j'entreprends à leur égard et dont j'espère la miséricorde d'Allah?
Vraiment très bonne question et très très pertinente pour terminer cette partie sur les comportements des pieux envers leurs parents. Et qu'Allah ça soit satisfait d'eux.
Amin.
Pour terminer, conclure notre dernière partie qui est la partie numéro 4, nous allons donner des conseils à ceux qui ont perdu leurs parents. Il y en a très certainement parmi vous qui nous écoutent et qui ont perdu leurs parents. Franchement, j'imagine même pas à quel point cela a dû être douloureux. On a pour Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde.
Amen.
Et avec Mariam, on s'est dit qu'on ne peut pas terminer cet épisode sans avoir une pensée pour vous. Et du coup, on s'est dit qu'on allait donner quelques conseils à notre échelle pour, entre guillemets, agir même après le décès d'un parent. N'oublions pas que l'islam est une religion magnifique et que même après la mort d'une personne, on peut continuer à lui faire augmenter sa balance de bonnes actions. Et parmi les meilleures choses à faire, c'est d'invoquer pour eux. Et effectivement, le prophète alayhi salam nous a enseigné que lorsqu'une personne meurt, toutes ses œuvres sont interrompues, sauf trois. Parmi celles-ci se trouve un enfant pieux qui invoque pour son parent. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit: certes, le degré d'un homme va être élevé dans le paradis et il va dire: d'où me vient cela? Il sera dit: cela provient des demandes de pardon de ton enfant en ta faveur. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Donc on donne tout pour les invocations, mais vraiment tout, il ne faut vraiment pas négliger. Disons-nous que nos parents vont recevoir nos invocations et regardons comment Allah est le miséricordieux par excellence. Et franchement, invoquer, ça ne nécessite pas d'argent ni d'efforts physiques, etc., mais juste un cœur sincère.
Exactement. Et deuxièmement, pour ceux qui en ont les moyens, vous pouvez faire un puits en leur mémoire. Contrairement en fait à ce qu'on peut croire, des puits ou des pompes à eau, franchement, pour certaines associations, il y en a pour 200 euros. Si franchement vous êtes intéressé par cela, contactez-nous via Instagram ou par mail et on pourra vous communiquer les contacts qu'on a par rapport à cela et tous les renseignements par rapport à cela, Inch'Allah. Et le puits fait également partie de la Sadaqa Jariya, c'est-à-dire même après leur mort, leur balance continue de grimper. Ne serait-ce que aussi avec des repas ou même 1 euro symbolique de l'eau, faire don de Coran et toute bonne action qui a du poids sur leur balance. On sait vraiment que la mort n'arrête pas l'amour, on leur porte et que c'est pour ça qu'il est primordial de continuer d'agir même après leur décès. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte de l'importance d'aimer une personne fi'Allah, de l'aimer en Allah. En fait, vraiment, l'amour en Allah perdure même après la mort. On souhaite le meilleur dans l'au-delà pour la personne qui est décédée. Et on sait que ce n'est pas fini, en fait, que pour avoir des chances et le privilège de revoir cette personne, on agit pour son compte, et le nôtre d'ailleurs, en faisant une source de motivation pour adorer Allah et œuvrer dans le bien. Et pour finir, on donne un dernier conseil parce qu'on a remarqué qu'en fait, dans certaines familles, c'est grâce encore aux parents que les enfants continuent de se parler et qui maintiennent leur lien de parenté. Une fois les parents décédés, il y a des frères et sœurs qui ne s'appellent même pas ou bien ne se rendent même pas visite, vraiment qui n'ont pas de contact ou pas de lien, même le plus petit qui soit. Et petit fait qui n'intéresse guère, mais quand j'étais jeune, je m'embrouillais évidemment comme tout le monde des fois avec mes frères et sœurs et ma mère ne nous permettait jamais de dire « je ne lui parle plus ». Mais vraiment, c'était inconcevable pour elle. Elle était vraiment en rogne quand on se permettait de dire ça. Donc vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, préservez vos liens de parenté. La famille, c'est sacré et c'est pas donné à tout le monde. Même si vous êtes dans des relations très conflictuelles avec les membres de votre famille, pour Allah et pour vos parents, faites les efforts conséquents. Vraiment, il n'y a pas de place à la fierté à 2 balles. Même s'il faut passer chez eux, même s'il n'y a pas de discussion, vraiment les appeler, même si ce n'est qu'une minute d'appel, au moins vous aurez fait l'effort pour Allah. Mais bon, on verra ça plus tard, Inch'Allah, dans un épisode qui sera plus adéquat.
C'est ça, un épisode qui sera plus adéquat parce que c'est vraiment triste de voir que Une fois que les parents sont décédés, ben, les frères et sœurs ne prennent plus de nouvelles, c'est etc., ça. Ne se parlent plus, ouais. Alors que la famille, c'est très sacré, c'est important. Bah, du coup, on peut conclure. Hein.
Enfin!
Enfin, ouais. Enfin, je sais pas, on a combien de minutes, toi,
on fait des épisodes longs maintenant, on est grave à l'aise.
Pour conclure, partons du principe que l'on aura beau avoir le plus haut niveau de bonté envers nos parents, on ne pourra jamais être reconnaissant envers eux. Donc, qu'est-ce que la bonté envers nos parents? Selon Al-Jawzi, radiallahu anhu, qui résume parfaitement cela, il dit que leur obéir tant qu'ils ordonnent rien d'interdit en leur donnant la priorité à eux que sur les actes surérogatoires, en s'éloignant de ceux qu'ils interdisent, en les prenant en charge, en se mettant pleinement à leur service et en ayant le bon comportement avec eux. Comment pourrait-on se regarder dans une glace si on privilégie le bon comportement avec nos amis, nos conjoints, nos collègues, etc., alors qu'on ne l'adopte pas avec nos parents? Comment on peut être amené à prendre en charge des orphelins à l'autre bout du monde par des parrainages, etc., ou bien autre acte de bienfaisance financière et physique, mais on ne va pas prendre en charge nos parents? Et certains sages ont dit: ne crois pas celui qui rompt avec ses parents, il ne te sera pas fidèle parce qu'il a rompu avec eux qui ont plus de droits sur lui que toi. Donc clairement, voyons-nous et revoyons-nous.
La meilleure chose à faire est d'être bon envers nos parents et surtout d'invoquer en leur faveur. Remercions Allah déjà d'en avoir un, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit présent, aimant, tout bienfait qu'Allah nous a octroyé à travers nos parents, et invoquer très fort afin qu'Allah leur pardonne leurs péchés, leurs écarts, leurs manquements et surtout leur accorde le Firdaus. Soyons reconnaissants et bons envers nos parents et plus particulièrement envers nos mères. Bon, on sait que des personnes se sont fait éduquer que par leur père, qu'Allah fasse des hommes de vos vies des occupants du plus haut rang du paradis. Amen. Encore une fois, on généralise, hein, mais l'objectif est que ça parle à tout le monde. Et on vous le rappelle, cet épisode, bah, il nous est destiné avant de vous l'être. C'est un épisode très important pour nous. Tout ce que l'on a évoqué, on ne l'applique pas forcément, et cela nous efforce à appliquer, faire des efforts et être reconnaissante envers Allah de nous avoir donné, bah, à toutes les deux des parents jusqu'à l'heure actuelle en bonne santé globalement et aimant. On va d'ailleurs à l'occasion faire écouter cet épisode particulièrement à eux, et on vous le dit, hein, pour tout ce que vous avez sacrifié pour nous, et attention particulière pour vous, nos mères, juste en ayant sacrifié en fait votre santé plus de 9 mois, ouais. Et dont les séquelles sont encore présentes jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. On espère que vous êtes fiers de nous, parce que bah, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse vous faire.
C'est
on
clair.
Ne pourra jamais vous rendre tout ce que vous avez fait pour nous. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis et nous réunisse ensemble.
Dites Amin les mamans, Amin.
Amin. Et une grosse pensée pour nos grands-parents partis, ceux encore présents qui ont tout aussi fait des sacrifices et avec qui, pour certains, dont moi d'ailleurs, les liens étaient très proches. Vraiment, qu'Allah vous fasse miséricorde.
Amen.
Aux sœurs de nos mères, nos tantes maternelles qui occupent le même rang que nos mères en islam. Souvenons-nous du hadith d'après Al-Bara ibn al-Azib, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tante maternelle est au même niveau que la mère. C'est rapporté par Bukhari. On a élaboré cet épisode sur plus des cas généraux, ce qui est en soi normal, hein. On ne va pas développer des choses sur des cas particuliers, mais on a tout de même voulu évoquer les cas justement qui sont particuliers, comme ceux qui n'ont pas grandi ou connu leurs parents, ceux qui ont des relations plus que compliquées avec eux, ceux qui se font aussi maltraiter au sens propre, hein, pas comme quand nous on disait qu'on n'avait pas le droit d'aller chez nos copines et tout. Non. Genre vraiment des personnes qui ont un lourd vécu et qui est malheureusement pas encore guéri avec leurs parents. On peut pas dire qu'on comprend ce que vous ressentez parce qu'il faut le vivre, mais juste le fait de se l'imaginer, c'est difficile. Donc vraiment qu'Allah vous accorde une belle issue à ces épreuves et qu'il en fasse à travers cela de vous des personnes pieuses et vertueuses. Inch'Allah, on fera un épisode particulier sur les épreuves et tout ce qui entoure cela.
Et du coup, c'est la fin de cet épisode qui s'adresse à nos chères mères et pères qui ont sacrifié leurs rêves pour que l'on puisse réaliser les nôtres. Wallahi, ça a été l'épisode le plus émouvant qu'on ait eu à préparer jusqu'à maintenant. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses sublimes noms et attributs les plus parfaits de faire miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés étant petits.
Amen.
Qu'il leur accorde la santé jusqu'à leur dernier souffle et qu'il nous accompagne encore longtemps dans nos vies pour qu'ils puissent voir tout ce que l'on a accompli et ainsi les rendre fiers.
Amen.
À nos chers papas qui se sont levés tous les matins pour partir au travail, peu importe les conditions météo, afin qu'on ne manque de rien. Qu'Allah vous préserve et vous fasse miséricorde.
Amen.
À nos chères mamans qui nous ont porté 9 mois, qui ont fait des nuits blanches, qui ont beaucoup sacrifié pour nous voir heureux. Et on ne peut même pas tout énumérer, vraiment. qu'Allah vous récompense, vous préserve et vous élève en degré. À toutes ces mères célibataires ou non malheureusement qui ont endossé toutes seules le rôle de père, mère, comprenant toutes les prises en charge de leurs enfants, matériels, affectifs, physiques, qui n'avaient pas le soutien du père de leurs enfants, Allah n'est point inattentif. Votre récompense va au-delà de votre espérance. Vous êtes des guerrières inégalables. Qu'Allah vous accorde le repos et la paix au Jannatul Firdaus. Votre fardeau ne durera qu'un temps, Inch'Allah. Qu'Allah Azzawajal accorde à nos parents le meilleur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, qu'il vous fasse quitter cette terre en entière soumission sur les paroles de La ilaha illallah. Une énorme pensée à toutes celles et ceux qui n'ont pas connu leurs parents ou pour qui leurs parents sont décédés. On vous admire tellement, qu'Allah leur fasse miséricorde, leur pardonne et que le Firdaus soit leur dernière demeure. Qu'Allah Azza wa Jal étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, sur sa famille ainsi que ses compagnons radiallahu anhum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله